deux, c'est mieux, avec Luc de Doncourt et son invité, sur les ondes de CJSO 101.7 FM.
De la belle visite aujourd'hui à A2 c'est mieux, Stéphie Choc, salut.
Salut.
Comment vas-tu?
Très bien, merci.
Merci d'être là.
Ça fait plaisir.
Stéphie, 7e album en 20 ans de carrière, parce que cette année, c'est tes 20 ans de carrière. Est-ce que tu voulais absolument sortir un album cette année ou c'est arrivé par hasard?
Ouais, c'est un concours de circonstances. J'ai réalisé l'été passé que j'avais des chansons suffisamment pour faire un disque. Puis là, c'est drôle ça, je vais avoir 50 ans bientôt, ça fait 20 ans que je fais ça de façon, disons, professionnelle. ouais, ça tombait bien. J'aurais pu le sortir plus tôt, mais j'ai fait coïncider ça avec la date de mon anniversaire pour que le monde en parle plus.
Et c'est des chansons donc que tu avais écrites au fil des années, parce que le projet d'avant, c'était l'hommage à Gainsbourg.
La plupart, c'est des chansons plutôt récentes que j'ai composées dans deux dernières années. Mais j'avais aussi quelques vieilles idées que je n'avais pas réussi à amener à terme. C'est tout le temps ça. Moi, je garde tout. Puis mes tiroirs sont toujours entrouverts.
OK.
Je les ferme jamais complètement. Et il y a toujours des idées qui finissent par... se retrouver sur un disque, mais qui traîne depuis longtemps.
Donc, tu retournes lire et écouter ce que tu as déjà, parce qu'il y en a qui n'aiment pas ça faire ça, mais toi, tu y retournes voir les bouts de chansons, en tout cas les amorces que tu as fait au fil des années.
C'est-à-dire que je fais du filtrage là,
oui, évidemment.
Au fil du temps, mais j'ai encore des idées qui traînent là, sur mes disques durs, là, ça peut faire des fois 15 ans que je rumine sur quelque chose et j'ai pas encore trouvé la passe nécessairement tout le temps pour en faire une chanson complète. Fait qu'ils sont sur un disque dur, puis à chaque fois que j'ai envie de travailler, j'y reviens. Des fois, ça sert à rien, mais d'autres fois, ça mène à des chansons. Ça arrive... Je crois pas au gaspillage d'idées. Les idées, c'est précieux, ça tombe pas souvent du ciel. Puis quand ça arrive, même si sur le moment où on a l'idée, on n'arrive pas à faire tout le chemin complet pour avoir une chanson complète, il faut être patient.
C'est toi qui réalises? Est-ce
que
c'est difficile d'avoir un regard extérieur à ce moment-là? Parce que tu crées, tu chantes, et tu réalises, donc c'est toi qui fais un peu tout?
Ben, c'est une question d'instinct. Plus ça va, plus mon instinct me semble juste. J'ai pris des fois des décisions qui n'étaient pas les meilleures, puis j'avais de l'entourage pour me ramener un peu dans la bonne track. Ça m'est arrivé de m'éloigner ou de pas penser nécessairement à... une meilleure tournure mélodique ou un meilleur enchaînement d'accords pour la chanson. Pour cet album-là, j'ai eu le sentiment que j'avais tout ce qu'il fallait. J'ai eu de l'aide sur quatre chansons, en fait, sur je sais plus combien, 10 il y en a, je pense.
Il y en a 10, oui.
10. Ouais, j'ai eu de l'aide sur quatre chansons, le reste, je me suis fait confiance. Ouais.
T'es assez éclectique comme album, tu vas dans... quelques sons différents. Est-ce qu'il fallait que ça marche tout ensemble, ces chansons-là, pour toi, dans le propos, dans l'univers musical?
Ben, dans la confection, au départ, là, je tenais pas compte d'un fil conducteur ou il y avait pas vraiment de ce souci de que ça soit homogène. Je travaillais sur 15 chansons pour l'album. Et j'ai gardé les 10 qui sont là parce que c'est les 10 qui me tentaient le plus. Inconsidérément, là, que ça se suive ou non, ça pouvait être totalement hétéroclite. Mais finalement, je me suis rendu compte que ça se tenait tout ensemble. Ça n'a pas l'air d'un... d'un gâteau crapouti, ça, ouais, ça a l'air d'un album. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai eu.
Il y a quelques personnes qui viennent poser leur voix avec toi sur des chansons. Entre autres, sur le premier, sur le, l'extrait qu'on a entendu, il y a un chanteur jamaïcain qui s'ajoute à toi. Comment c'est arrivé, cette idée-là?
C'est arrivé que j'ai... Bon, en fait, c'est que j'ai un projet de musique jamaïcaine qui est en dormance pour le moment. Et j'avais travaillé sur cette musique-là avec le chanteur qu'on entend, qui chante la chanson au complet. Mm-hmm. Et puis, ça, c'était avant que je décide de faire un album. Puis quand j'ai décidé de faire mon propre album, un album de Steffi Choc, parce que l'autre projet, ça s'appelle pas Steffi Choc. Puis, je ne sais même pas encore comment ça s'appelle.
C'est pas important. Tu sais comment ça s'appelle pas, mais tu sais, oui, pas comment ça s'appelle.
C'est pas important, parce que c'est pas avant l'automne prochain que ça va sortir. Donc, sauf que là, j'ai eu l'idée de récupérer cette musique-là pour en faire une chanson que moi, je chante. Et puis, j'ai gardé des retailles de sa voix qui était sur la version en anglais qu'on n'a toujours pas entendue parce qu'elle n'est pas sortie. Puis j'ai pris des retailles, puis je l'ai inséré avec ma voix ici et là. Je trouvais ça drôle d'avoir une participation un peu exotique,
ah ouais,
sur cette chanson-là. Je trouve que ça la sert bien, ça donne du... Ça donne du rythme, ça la rend plus existante, je trouve.
Et le premier extrait, ça a été, as-tu deux minutes, où il y a un échantillonnage, et t'as dit en entrevue que t'aimes beaucoup ça, toi, faire ça, de l'échantillonnage.
J'en fais beaucoup, de l'échantillonnage.
Est-ce que c'est ton côté DJ qui fait ça?
C'est mon côté DJ. J'ai commencé à échantillonner, j'avais 13 ans, en fait. J'ai commencé à faire des remixes de chansons, puis... avec des lecteurs à cassettes, je faisais des montages. Donc, j'ai commencé à utiliser les sons des autres très tôt. Puis, et toujours de façon illégale. Sauf pour Avec ou sans toi, parce que je voulais à la fois rendre hommage à Pauline Julien, à la musique de... aux paroles de Michel Tremblay. Fait c'est pas comme quand je fais un échantillonnage de Black Sabbath.
Que t'as déjà fait, d'ailleurs.
Qu'est-ce que j'ai déjà fait, sans le déclarer. Parce que je les connais pas, ils me connaissent pas. Ils ont fait leur argent. Alors, ça me gêne pas du tout de les avoir échantillonnés. Mais dans le cas de Michel Tremblay... Pas que moi, je le connais personnellement, mais ma blonde a travaillé avec. Puis j'avais envie que ça soit propre et tout à fait déclaré. Fait que j'ai contacté la fille de Pauline Julien, qui se trouve être celle qui administre le catalogue de sa mère. Et puis j'ai demandé les permissions. J'ai envoyé le texte, la musique à Michel Tremblay, puisque j'ai dit que je gardais les paroles du refrain qu'il avait fait, mais que en fait, au début, j'ai demandé s'il voulait écrire avec moi
la nouvelle mouture.
La nouvelle mouture de cette chanson-là. Puis il me dit qu'il est en année sabbatique, puis qu'il me faisait confiance. Alors j'ai écrit le texte, j'ai envoyé, puis il est content. Et ça donne une chanson nouvelle avec un refrain oublié, on peut dire, parce que ça date de 72, puis ça a fait son chemin dans ce temps-là, mais c'est pas tout le monde qui connaît la chanson originale. Fait que ça m'a permis de la remettre au goût du jour, puis de l'utiliser à mon profit.
Mais avec un propos qui se ressemble un peu
un
aussi.
Partagé avec Michel Tremblay.
Tout à fait. Mais avec un propos qui se ressemble un peu aussi.
Oui,
c'est parce que l'original, Pauline Julien était désespéré.
Quelqu'un de désespéré qui a besoin d'être écouté. Alors j'ai gardé ça dans le même esprit. De toute façon, c'était dur de trouver autre chose à dire. Michel Tremblay, à l'origine, s'est mis dans la peau d'une dame dont le mari est absent, ou en fait, il est présent tout en étant absent, indifférent, et puis est désespérée. Ben moi, je me suis mis dans ma propre peau à moi en multipliant plusieurs fois les problèmes avec l'anxiété que j'ai pu connaître dans le passé. Parce qu'on dit souvent que qu'il faut écrire sur ce qu'on connaît pour être crédible. Je connais ça, l'anxiété.
Il y a du stock à sortir, j'imagine, quand on écrit là-dessus, vu que c'est un sujet qu'on connaît bien.
Ça fait longtemps que j'écris sur l'anxiété, mais sans le nommer. Sans nommer l'anxiété comme telle, je pourrais parler d'autres choses aussi. C'est interprétable, c'est ça que je veux dire.
Avant ce projet-là, ça a été le projet Hommage à Gainsbourg. Est-ce qu'on avait besoin de créer à travers ce projet? Parce qu'évidemment, là, c'était un hommage. Mais est-ce que tu avais besoin de composer quand même, en même temps, de ton côté, pour garder le créateur allumé?
Hey, c'est drôle, l'émission s'appelle À deux, c'est mieux.
Ouais.
Parce que le refrain d'Avec ou sans toi, ça dit Avec ou sans toi, c'est déjà mieux.
Il y a ça. C'est un lien.
Sauf que ma phrase, elle veut rien dire.
Okay.
Parce qu'à deux, c'est mieux, ça veut dire quelque chose
c'est
au
ça. Mais donc, est-ce que tu avais besoin de créer, malgré tout, même si tu étais dans un projet qui demandait beaucoup de ton temps, de dire « faut que je garde ça allumé, faut que ça continue ».
Oui, ben, c'est sûr que l'album de Gainsbourg, ça m'a donné une bonne pause d'écriture que j'ai saisie. Ça m'a pas manqué d'écrire pendant le temps que j'ai fait Gainsbourg, parce que clairement, j'avais pas le temps... Parce que Gainsbourg, c'était pas juste d'enregistrer les chansons. Il fallait que je les réalise, que je les réarrange.
Ouais.
Il fallait que je les chante. Il fallait que je fasse chanter les chanteuses qui ont participé au projet. Et puis, à un moment donné, le goût d'écrire est revenu. Là, l'été passé, c'était juste en 2018. J'ai sorti l'album de Gainsbourg en mars 2016. Et c'est 2 ans plus tard seulement que le goût d'écrire m'est revenu.
T'as pas du tout écrit? Tu disais manque de temps, mais t'as pas du tout écrit.
Pas, okay. Non, en fait, je sais pas, il faut prendre le temps de se ressourcer, puis de faut prendre le temps d'avoir le goût. Si c'est trop forcé, si c'est pas inspiré, ça s'entend, il me semble. Donc, c'est à moitié attendre que ça tombe du ciel, puis à moitié faire le travail pour attraper ce qui tombe du ciel. C'est pas facile d'attraper ça, ce qui tombe du ciel, là. Mais ça tombe du ciel des fois.
Okay.
C'est ça qui fait que des chansons sont bonnes. Je sais pas si mes chansons sont bonnes, mais y a des idées qui sont tombées du ciel, en tout cas. Et je pense que c'est comme ça pour les grandes chansons ou les chansons que le monde aime. C'est pas le fruit d'un acharnement à trouver une belle mélodie. La bonne mélodie, elle arrive tout seul. Il faut juste l'entourer après cette mélodie-là.
Mais est-ce qu'elle naît d'un coup, parfois? Parce qu'on disait tout à l'heure qu'il y a des bouts de chansons dans un disque dur, mais est-ce que des fois, elle naît d'un bout à l'autre?
Une chanson d'un bout à l'autre, oui, ça arrive. Par exemple, la chanson titre...
Le fruit du hasard?
Non, c'est pas la chanson titre, c'est n'importe quoi. De l'aube à la nuit.
OK.
Cette chanson-là est venue tout d'un coup. C'est pas issu d'une idée d'il y a 2 ans à laquelle j'ai pensé à un texte il y a 2 mois. Ça arrive très, très souvent, mais celle-là est venue d'un bout à l'autre. Il y en a d'autres comme ça qui viennent... Il y en a qui prennent une heure à écrire, puis d'autres qui prennent 10 ans. Pas 10 ans à temps plein.
Non, je comprends.
C'est pas payant comme
C'est toi qui as préparé les arrangements pour les cuivres, pour ce disque-là?
Oui.
Alors que tu t'en joues pas?
Ah non, j'en joue pas du tout.
Est-ce que c'était compliqué pour les gens qui en jouent de reprendre ce que tu avais créé?
Ah, c'est une bonne question, ça, parce que des fois, moi, je fais des arrangements de cuivre au clavier. Avec des sons
de
trompette, ah ouais, de trombone puis de saxophone. Mais je tiens pas compte des articulations naturelles. Je fais ce que je veux. C'est moi le patron. Sauf que là, quand les vrais musiciens, quand le trompettiste, le tromboniste, le saxophoniste viennent en studio, des fois, ils écoutent ce que j'ai fait au clavier, puis là, ils se demandent où ils vont respirer.
Oui, mais ça demande du souffle à un moment donné.
Il faut respirer. Mais donc, je fais quelques compromis des fois. Avec leur expérience de joueur, de souffleur, des fois, ils vont me conseiller une certaine modification, raccourcir une note en allonger une. Mais au final, je reconnais ce que j'ai composé quand un coup que c'est enregistré. Ouais.
Donc, il faut qu'il y ait une espèce de lâcher-prise aussi. Il faut faire confiance à ces musiciens-là.
De plus en plus. J'ai mal commencé. Moi, j'ai commencé en étant extrêmement opiniâtre, même têtu. Puis, au fil du temps, j'ai laissé un peu de corde aux gens, pas pour se pendre, mais pour permettre...
Qu'il y ait du lousse un peu.
Ouais. D'être, comment dire, donc je peux pas penser à toutes les bonnes idées. Il y a des gens, il y a d'autres gens autour de moi qui ont des bonnes idées.
Ouais.
Fait que je suis devenu plus à l'écoute avec le temps, peut-être.
C'est l'album de tes 50 ans, on l'a dit tout à l'heure. Est-ce que tu l'as senti dans le propos, dans ce que tu écris? As-tu senti cette réflexion-là qui a changé au fil des années? Évidemment, on n'a pas la même vision de la vie à 30 ans puis à 50 ans.
Non, j'écris pas mal encore sur les mêmes sujets, mais avec des mots différents. J'apprends des nouveaux mots. Pour moi, là, c'est très élastique. Ce que j'ai écrit il y a 10 ans, j'aurais pu l'écrire maintenant et vice-versa. J'écris pas sur l'âge encore. Je sens pas l'emprise encore de l'âge, fait que c'est pas un sujet qui me passe par la tête.
Ta blonde a participé à l'album, Sonia Cordeau, t'a conseillé aussi, j'imagine. Ça a été comment son apport dans la création de ce disque-là, parce qu'elle fait de la musique. Aussi, les gens la connaissent comme comédienne, mais elle a un duo qui s'appelle Joli Bois. Elle fait de la musique dans lequel tu es le batteur, ouais.
Sonia a une oreille musicale très, très développée. Puis on n'écoute pas les mêmes choses. C'est quelque chose qui me plaît parce que elle a des références que j'ai pas et des idées mélodiques d'harmonie, comme elle a chanté sur la chanson Bye Bye Bye. Elle a fait des harmonies célestes là-dessus. Des choses qui ne me seraient pas nécessairement venues en tête parce qu'on n'a pas les mêmes influences, comme je disais. Mais aussi à me conseiller, comme tout à l'heure, on a écouté As-tu deux minutes. On se disait ça hors d'onde,
ouais.
C'est ça. Là, on est en onde.
C'est oui, ça. C'est okay. Ça.
Des fois, on ne sait plus.
Oui, c'est ça.
Puis, en fait, j'étais bloqué un peu. J'avais des couplets pour As-tu deux minutes. J'avais évidemment le refrain. Mais entre les deux, il manquait une partie musicale, vocale. Je savais pas ce qui manquait, mais je savais qu'il manquait quelque chose. Ça, c'est déplaisant, ça. On sait qu'il manque quelque chose, mais on sait pas quoi. Donc, j'ai fait entendre ça, puis simplement, elle me dit, ben pourquoi t'échantillonnes pas un coup parti, puisque j'ai déjà échantillonné le refrain, qui est chanté par on sait pas qui, dans la version originale.
Ouais.
Moi, je pense que c'est Jacques Perron. Il y en a qui pensent que c'est Tex Lecor. Moi, j'y crois pas à Tex Lecor qui chante là-dessus, mais c'est toujours possible. Mais en tout cas, j'avais échantillonné cette partie-là, qui est le refrain. As-tu deux secondes? Non. As-tu deux minutes? C'est un homme qui chante, en tout cas. Et là, ma blonde m'a conseillé d'échantillonner aussi la voix de Pauline Julien qui parle. Elle chante pas dans la chanson, elle fait juste parler. Fait, c'est ça que j'ai fait. Fait que j'ai pris la voix de Pauline Julien, toujours avec la permission de sa fille, Pascal. Et j'ai fait répéter des affaires. Écoute-moi. Reste assis. Je trouvais que ça donnait du rythme. Puis, au final, je peux me vanter d'avoir un duo avec Pauline Julien. Y a pas, ce qu'il n'y a pas grand monde peut dire.
Effectivement. Si et approuvé en plus.
Approuvé pas par elle, manifestement, malheureusement.
Mais par sa fille.
Sa fille, ouais.
Les participations vocales de Sonia à l'album, est-ce que c'est un hasard? Est-ce que c'est en créant en studio que c'est arrivé ou c'était déjà clair dès le départ de ces chansons-là qu'elle allait être sur ces chansons-là?
Non, c'était pas clair. C'est juste que Ce qui est pratique, c'est qu'on habite ensemble.
Oui, ça aide.
Et mon studio est à la maison.
Ça aussi, ça aide.
Ça, ça aide. Donc, alors si Sonia est à la maison, puis qu'elle n'est pas trop occupée, puis que moi, je suis en train de travailler sur mes affaires, ça se peut, comme c'est arrivé, et ça va arriver encore dans le futur, je dis comme, hey, as-tu deux minutes pour essayer une mélodie là-dessus, une harmonie, quelque chose? Mais au départ, on savait pas si nos voix étaient pour
marcher ensemble.
Être belles ensemble. Ouais. C'est pas garanti, ça. Mélanger des timbres, des fois, ça donne du beau et du moins beau. Et puis, il me semble que ça marche.
Chaque fois qu'il y a un nouveau projet qui sort, est-ce qu'il y a un track? Est-ce qu'on a hâte de voir la réaction? Évidemment, on espère qu'il y aura une résonance dans le public et que les gens aimeront ça, mais est-ce qu'il y a une inquiétude ou quelque chose à chaque fois ou pas?
Ben oui, il y a toujours le risque d'avoir basculé dans l'oubli, d'être devenu le has-been de service de l'année en cours. Mais non, mais un mot au sujet de Raspberries qu'on vient d'entendre. Je disais que j'avais finalement volé cette mélodie à l'envers, mais c'est pas que j'ai volé, c'est que j'ai aucun moyen de savoir qui a composé.
C'est qui, ouais, c'est ça.
Donc, c'est par miracle, la personne qui a composé ça, ou les personnes reconnaissaient, c'est à peu près impensable.
Oui, oui.
Auquel cas, ça serait avec la plus grande... ça serait naturel pour moi de donner les droits d'auteur
c'est sûr.
À cette personne-là. Mais bon, je pense pas que ça va arriver parce que c'est indétectable et c'est malgré moi.
Oui, ils se reconnaîtront pas, là. Voilà.
Ben non. C'est dommage.
Ben oui, c'est tout à fait.
Savoir c'est qui, mais...
Ben peut-être, on sait jamais. Peut-être qu'ils savent qu'à l'envers, ils sonnent de même.
À double vitesse.
Oui, c'est ça. Peut-être qu'ils savent.
Faut le faire, peut-être. J'attends les nouvelles.
Sophie, c'est 20 ans de carrière professionnelle. Cette année, ça te fait quoi, ça, d'abord, 20 ans de carrière? Ça veut dire qu'on a duré, déjà. C'est un cadeau, ça.
Oui, durer 20 ans, c'est pas facile. Surtout maintenant. C'était plus facile de durer... Dans les années 70, 80, parce qu'il y avait beaucoup moins d'artistes. Et dans le temps de Charlebois, là, Charlebois, Ferland, Vigneault, Leclerc, Dubois, je les ai presque tous nommés déjà.
Puis il reste les groupes Harmonium, Beau Dommage.
Harmonium, Beau Dommage. Là, les groupes, ça va encore plus vite dénommer. Donc, c'est plus facile de durer dans ce temps-là. Faut rester pertinent, c'est sûr. Faut continuer de faire des bons disques. Mais maintenant, faire des bons disques, c'est pas suffisant. Je sais pas c'est quoi que ça prend pour durer maintenant avec l'immense nombre d'artistes qui tentent de se faire une place dans le marché actuel. Là, ça devient un coup de chance ou un concours de circonstances de durée parce que c'est rendu un peu un coup de dé.
T'as un studio à la maison, tu l'as mentionné tout à l'heure, ça permet plein de choses. Ça permet de travailler tout le temps. C'est pas sûr que c'est toujours positif d'être toujours là-dedans, mais ça permet de faire de l'essai-erreur, ce qu'on peut pas faire dans un studio où il y a un punch puis où on paie pour un temps de studio, là.
Non, les temps modernes ont des mauvais côtés, puis ils ont des bons côtés aussi. Ça me permet de faire mon disque presque au complet chez moi, sans compromis sonore au niveau de la qualité du son, ce qu'on pouvait pas faire il y a 20 ans. Donc ça, c'est une différence. Je peux recommencer autant de fois que je veux.
Tu peux y aller à l'heure que tu veux.
À l'heure que je veux, le compteur tourne pas. Donc, oui, ça a du bon pour ça. Le moins bon, c'est que... Puis ça coûte moins cher, forcément. Mais le problème, si on peut dire, c'est que, justement, ça permet à tout le monde, désormais, de pouvoir le faire. C'est la grande démocratie des auteurs, compositeurs, interprètes qui, comparativement à avant... devait avoir un contrat de disque en bonne et due forme, et puis après ça, débloquer des budgets avec la compagnie de disques, puis ça coûtait cher, les studios. Donc ça explique pourquoi il y en avait moins. Donc, les bons côtés viennent souvent avec des côtés un peu moins avantageux.
Ouais. Est-ce que tu as l'impression que c'est donc plus dur de se rendre aux gens maintenant? Ou c'est plus facile à cause de l'Internet, justement?
Ben, c'est plus facile, mais l'offre est tellement grande et la demande n'a pas grandi tellement. C'est-à-dire que là, on va butiner d'un artiste à l'autre. Ah, on va consommer la chanson de tel artiste parce qu'on aime bien, mais on va pas nécessairement s'attarder au répertoire ou à l'album complet parce que dans la même semaine, il y en a 10 qui sont sortis. Puis si on est curieux...
On veut tout écouter.
On veut écouter un peu de chacun, mais bon, bref, c'est... Il y a plus tellement, sauf de rares exceptions, le culte de l'artiste... être fan complet d'un artiste comme on pouvait l'être auparavant. Là, c'est dur de jeter son dévolu sur un artiste. Il n'y a pas de raison de le faire parce qu'au lieu d'en avoir 5, 10, il y en a 100 à qui on peut s'intéresser désormais. Alors, c'est bien pour les gens qui consomment la musique d'avoir autant de possibilités, de choix, mais pour les auteurs-compositeurs qui doivent vendre des disques, des billets de concert, ça devient un métier assez difficile à faire. Il y a des gens qui se démarquent. Je sais pas moi, Hubert Lenoir, par exemple, ouais, est de loin celui qui fait... parler le plus de lui, comme Jean Leloup fut un temps celui qui faisait le plus parler de lui. Mais ça, c'est il y en a un aux 10 ans, un aux 20 ans peut-être. Puis Hubert Lenoir, ben, on ne sait pas s'il va durer, tandis que Leloup, on sait qu'il n'y a pas de date de péremption à son rayonnement apparemment, parce que son répertoire est trop grand et trop fort. Hubert Lenoir, ça reste à voir.
C'est la suite qui nous le dira.
C'est la suite. C'est trop tôt, on peut pas le dire pour l'instant.
Pour la promotion de l'album, je t'ai vu à Salut Bonjour, tu parlais de tes premières entrevues à ton premier lancement de disque. Et tu disais qu'à cause de ton anxiété, tu avais complètement gâché les entrevues en question. Qu'est-ce qui s'était passé à ce moment-là?
Ah oui, j'ai eu l'air fou, là. Pour ceux qui savaient pas, donc la majorité du monde... J'ai eu une attaque de panique.
À ton lancement?
En direct, au lancement de mon premier disque. Ça a bien mal commencé, là. Puis je l'ai revu, moi, l'entrevue en question. C'était au téléjournal de 6 heures. Et c'est. Dans ce temps-là, on n'en parlait pas. Des attaques de panique, de l'anxiété, tout ça. Donc je devais avoir l'air complètement en dehors de ma tête, mais pas de façon agréable. Tu sais, des fois, quelqu'un... on a déjà vu Jean Leloup à la télé complètement parti, tu sais, dans des délires, mais ça le rendait...
Ça rendait Jean Leloup.
Ça le rendait intriguant.
Oh, oui.
Moi, ça me rendait pas intriguant. Ça me rendait juste malaisant. Et... Donc, moi, ça m'a fait mal de voir cette entrevue-là. Ça m'a fait mal de donner une entrevue aussi pitoyable dans laquelle j'avais de la difficulté à m'exprimer seulement. J'avais pas de salive. Ça, c'est un des symptômes, souvent, des attaques de panique. C'est qu'on perd sa salive. On n'arrive pas à respirer. La respiration bloque là, au niveau de la poitrine. On voudrait respirer jusque dans le ventre, mais l'air se rend pas. Donc, je pensais m'écrouler en direct à la télé. Ça aurait été un bon stunt, ça, par
exemple. Oui, ça aurait commencé fort.
tant pis, j'ai manqué ma
chance. Mais tu en parles depuis quelques années. Tu es même devenu porte-parole pour un organisme il y a quelques années déjà. Pourquoi ça a été important à un moment donné dans ta carrière d'en parler, de ça, de t'ouvrir sur ce sujet-là?
Je me souviens pas comment ça a commencé. C'est en 2007 que je suis devenu porte-parole de Revivre, puis... Je sais plus, je pense que c'est la relationniste de presse avec qui je travaillais qui était en contact avec cet organisme-là. Ah oui, c'est ça. Dans ce temps-là, c'était François Massicotte qui était porte-parole.
OK.
Et puis c'était sa dernière année. Je sais pas pourquoi, mais il devenait plus porte-parole pour revivre. Et puis, ils ont pensé à moi parce qu'ils avaient su, je sais pas de quelle façon, je m'en rappelle pas, que j'avais des troubles d'anxiété. Puis, tant qu'avoir un porte-parole, aussi bien en avoir un qui est crédible, qui sait de quoi il parle quand il parle d'anxiété.
Mais est-ce que le regard des gens a changé depuis? Est-ce que tu as l'impression qu'on en parle plus, qu'on en parle assez ou pas encore assez?
Ah non, on en parle beaucoup plus. Je sais pas si on en parle assez, mais ça n'a rien à voir avec en 2007. On en parlait déjà, mais trop peu. J'ai reçu des centaines de courriels ou de lettres de gens qui que ça a beaucoup aidé. Qui ont compris, soit qui ont compris de quoi ils souffraient, ils ne savaient pas avant, puis d'entendre publiquement quelqu'un le dire exactement, le symptôme par symptôme, parce que d'une attaque de panique à l'autre, c'est pas mal toujours, d'une personne à l'autre, je veux dire,
c'est pas mal toujours la même chose.
C'est pas mal toujours la même chose, une attaque de panique. Les palpitations, les engourdissements des extrémités, difficulté à respirer, comme je disais, perdre sa salive, devenir étourdi, avoir mal dans la poitrine, bref, des affaires plaisantes comme ça. Et puis, pour toutes ces personnes-là qui n'avaient jamais consulté ou osé en parler, là, il y a eu comme une révélation, d'une part. Et d'autre part, vu que j'en parlais publiquement, mais c'est comme si ça démontrait à toutes ces personnes-là que c'était pas honteux d'en parler. C'est ça. Fait que c'est les deux effets bénéfiques que ça a eu que j'en parle publiquement. Mais pas juste moi, là.
Oh oui. Oui.
Moi, je suis un parmi d'autres là, qui parlent de ça publiquement.
Mais c'est comment quand on reçoit des courriels ou des lettres de gens qui disent « Enfin! »
Enfin,
grâce à toi, j'ai compris
oui, ou merci
ce qui se passait. Ou merci
merci d'en parler publiquement. Merci de dire que c'est pas... qu'on n'est pas dangereux. je déconne, mais...
On n'est pas bizarre.
Ouais. Qu'on peut en parler publiquement puis qu'on est moins jugé parce que les gens ont peur d'être jugés et d'être ostracisés quand on touche à la santé mentale. C'est très délicat, c'est sensible. Mais ça l'est de moins en moins, c'est ça. C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ce travail-là d'en parler publiquement.
Sur l'album, tu as fait une reprise. Plants and Animals, c'est Bye Bye Bye. Oui. Pourquoi tu as fait une reprise de cette chanson-là?
C'est le genre de chanson que j'aurais aimé écrire, mais j'écris pas ce type de chanson-là. Mais j'aime beaucoup ce type de chanson-là. Puis j'aime ça faire des reprises, les amener ailleurs. Alors j'ai fait une reprise, mais avec un texte que j'ai écrit parce que je voulais que ce soit en français. Puis au début, j'ai pensé traduire le texte original, puis je me suis rendu compte assez tôt que c'était impossible. Donc j'ai imaginé une toute autre histoire et j'ai demandé la permission à Plants and Animals, parce que oui, je demande des permissions des fois. pour As-tu deux minutes? Plants and Animals, c'est un groupe de Montréal.
Ouais.
On a un entourage en commun, même si on se connaît pas vraiment. En tout cas, bref, je les ai approchés, je leur ai fait la demande d'autorisation pour transformer leur chanson.
Oui, parce que là, c'est pas juste reprendre une chanson, c'est la changer complètement.
On n'a pas besoin d'une permission pour reprendre une chanson, sauf si on modifie les paroles ou les mélodies. Là, ça prend une autorisation d'adaptation. Alors moi, j'ai fait une adaptation de cette chanson-là. Puis ça a passé comme dans du beurre. Ça a été accepté tout de suite par l'éditeur puis par le groupe. Parce qu'ils ont les crédits de composition de cette chanson-là à eux trois. Donc ça a été accepté. Puis j'ai demandé à ma blonde de chanter dessus.
Steffi, là, ça va être la tournée. Avec ce projet-là, c'est la suite logique.
Ben oui, le cycle album tourné.
Mais là, avec 7 disques, est-ce que ce serait complexe de faire le choix des chansons? Parce qu'évidemment, on veut jouer l'essentiel de ce disque-là, mais il y a des hits sur les autres albums qu'il faut jouer.
J'en fais 6 du nouveau disque. Il y en a qui sont pas vraiment faites pour être jouées.
Donc, celles qu'on a entendues, que tu fais pas en show?
Non, j'ai trop de la misère à chanter.
Donc, on va l'entendre une fois, puis c'est sur le disque.
Il y a trop de voix aussi dessus, puis le... Non, elle est trop complexe à faire en concert. Donc, c'est pour ça que je la fais pas. Puis... Donc, j'en fais 6. Puis, je suis allé chercher les chansons que je préfère sur les autres albums. Moitié ce que je préfère, moitié ce qui a été des chansons assez populaires. C'est sûr, comme L'amour dans le désert, c'est... ça fait pas tellement partie des chansons que j'aime faire, mais je la fais quand même. Je la fais du mieux que je peux. Ça...
mais pour le public, parce qu'elle a marché, cette chanson-là.
Oui, elle a marché fort, mais elle n'est pas super le fun à chanter.
OK. Est-ce que tu remontes jusqu'à Giacomo Le Spleen, par exemple, ou tu vas pas jusque-là?
Oui, je vais jusque-là. Giacomo Le Spleen, là, j'ai des chansons de, tirées de tous les albums, principalement du décor et puis du nouveau disque. C'est l'essentiel, sont tirés de ces deux albums-là. Parce que c'est mes deux albums préférés, tout simplement. Fait que je vais chercher dans ce que je crois, ce qui est le meilleur de ce que j'ai fait. Là.
Est-ce que dans la création, tu y penses au show? Est-ce que tu te dis, en écrivant les chansons, ça va bien sonner en show? Ou tu essaies de pas penser à ça, puis tu essaies de faire juste le meilleur disque possible?
J'y pense, mais pas tant. C'est sûr que dans le processus, je me vois déjà sur scène en train de la chanter. Là, mais c'est pas un critère, la preuve comme...
Bye bye bye.
Au début, je savais pas que je la ferais pas, mais peut-être que je la ferai si ça devient un grand hit. Là, je prendrai des cours de chant. Puis j'engagerai des choristes.
Oui, aussi, pour faire tout l'arrangement.
Pour faire tout l'arrangement. Mais tu sais, comme par exemple la reprise que j'ai faite de Simplement Doucement sur l'album... Bon, on peut pas la faire en concert parce qu'il y a 3 pianos dessus. J'ai pas 3 pianistes, j'en ai seulement qu'un.
Il y a ça.
Puis elle est dure à adapter. Donc celle-là, en la faisant, je savais qu'elle n'était pas destinée à la scène. C'est correct. Je veux dire, tout ne... je peux pas toutes les faire de toute façon.
Non, c'est ça.
À quantité de chansons que j'ai désormais.
Avec un tri qui se fait naturellement.
Oui, avec cet album, c'est sûr que je peux pas toutes les faire. Fait que le tri est facile à faire à ce niveau-là. Ouais.
Et là, si on veut voir les dates, c'est sur le web qu'on a tout ça?
Les dates, ouais, ça doit. Ouais, j'espère. J'espère qu'ils ont mis. Oui, ça va être si c'est pas déjà annoncé parce que. Comme je sais qu'en juin, ils ne sont pas encore annoncés parce que la programmation des salles, je sais pas, hein, ils font ce qu'ils veulent. Hein, c'est pas, j'ai pas de contrôle là-dessus. Mais quand ça va être annoncé, oui, ça va être annoncé.
Steffi, merci d'avoir été là aujourd'hui.
Merci de m'avoir reçu.
C'était super, merci beaucoup.
C'était super, oui, merci.
Merci.